Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toi qui écoute le 102.2 sur la bande FM à Lyon ou sur radiocanu.org. Il est 22h et c'est l'heure de la causerie. Comme presque tous les dimanches, ce soir dans les studios, nous avons à la technique Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Fab.
Bonsoir. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Nous ne sommes pas à la technique. Une causerie.
Ça s'entend, non ?
Oh, madame, oh, madame veut du clash. Ok.
Je crois que mon micro il marche plus.
Ouais, c'est bizarre, le son est chelou.
Tu nous entends ?
Je vous entends.
Bah, nous on s'entend pas, mais c'est pas grave, on va faire avec.
Ok, très bien. Et ben ça tombe bien parce que c'est toi qui vas faire avec en premier, ben Fab, oui. Et toi tu vas nous causer Rwanda 30 ans après et la France dans tout ça.
Ben ouais, c'est ça. Parce qu'on aurait pu espérer un petit pas vers plus de transparence. Alors je vais expliquer pourquoi je dis ça, mais on se souvient qu'Emmanuel Macron avait déjà fait un pas vers la reconnaissance du rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors je rappelle que le génocide, c'est 800 000 Tutsis tués et 200 000 Hutus qui étaient contre le génocide qui ont été aussi tués, donc ce qu'on appelait l'opposition Hutu. Et donc c'est plus d'un million de personnes qui ont été tués en quelques semaines. J'ai un son bizarre, mais c'est pas grave. Donc il avait affirmé en 2021 la responsabilité accablante de Paris dans l'engrenage qui a abouti au pire. Voilà, ça c'est ce qu'il avait dit. Et en fait, son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, il devait rappeler normalement sur place, selon ce qui avait fuité, souvent ça fuite un peu.
Oui.
Donc il devait rappeler jeudi ou vendredi une phrase dite soi-disant par Emmanuel Macron qui aurait estimé que la France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, il n'en a pas eu la volonté. Ça c'est ce qui aurait dû fuiter. Et en fait, à la place de ça, il a ramené une vidéo qui a été diffusée d'Emmanuel Macron dans laquelle il ne cite pas cette phrase, et où il dit juste en gros, je ne retire pas un seul mot de ce que j'ai dit en 2021, mais n'en ajoute pas un non plus. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu comme un petit rétro-pédalage. Donc on aurait pu se réjouir quand même de ces petits pas vers la reconnaissance du rôle de la France dans ce génocide. Mais on peut aussi noter même si la phrase avait été dite, c'est quand même une petite reconnaissance en biais. Hein, et pas frontal, c'est-à-dire que l'on ne reconnaît pas le rôle accablant, pour reprendre les mots, de notre pays en termes de lignes directes, de formation des soldats, de fourniture de matériel, qui ont abouti au massacre. Parce que je rappelle quand même que la France, en 1994, c'est le principal allié du Rwanda et le principal allié du gouvernement raciste qui appelle au massacre des Tutsis. Voilà. En fait, on reconnaît à demi ce qui s'est passé sans pousser au-delà, tout en étant un petit peu en mode on n'a pas été gentil, mais on va pas tout vous dire. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le génocide rwandais, il a eu lieu en 1994, comme on vient de le dire, et il a surtout démarré, aujourd'hui, jour pour jour, parce qu'il a démarré le 7 avril 1994. Donc, à l'époque, la France, elle est donc très présente au Rwanda. Pour des raisons géostratégiques, bien sûr, mais aussi pour le sous-sol.
Oui.
Ouais, parce que rarement la France est quelque part juste pour le plaisir. Et le gouvernement de Mitterrand, à l'époque, il soutient clairement le camp qui sera celui qui mènera le génocide. Voilà, il est même, comme il le dit lui-même, François Mitterrand, ami très proche du président de l'époque. Oui. Bon, en même temps, il était ami très proche de Bousquet aussi, qui était un ancien nazi. Donc, qui était un nazi, un milicien. Donc, finalement, Mitterrand était dans la ligne de ce qu'il fait souvent, il aime bien les génocidaires. Donc voilà, tout cela est... pardon, mais je fais un rappel historique. Hein. Ouais. Tout cela donc a été clairement exposé dans une enquête qui a été menée de 2019 à 2021 par la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis, qui a été présidée par Vincent Duclerc. On peut se souvenir d'ailleurs que la sortie du rapport d'enquête avait grandement été critiquée par celles et ceux qui veulent continuer à faire croire que la France n'aurait rien fait ou qui cherche à minimiser son rôle comme c'est le cas aujourd'hui. Alors moi je citais des noms comme ça, mais parce qu'ils sont encore en politique, hein, donc on se rappellera de la sortie de Laurent Fabius, hein, qui expliquait que cette commission d'enquête n'était qu'un ramassis de mensonges voué à cracher sur François Mitterrand. Oui, évidemment, hein, parce que Fabius, Mitterrand, c'est des potes. On se souviendra de Dominique Strauss-Kahn, un homme sur qui on peut compter. Voilà, on voit qu'il y avait un paquet de salopards, pardon, qui ont voulu enterrer ce rapport d'enquête. Bon, alors du coup, Macron, il était un peu coincé, parce que c'est lui qui l'avait commandé. Donc c'est pour ça qu'en 2021, il a reconnu la responsabilité accablante de Paris dans l'engrenage qui aboutit au pire. Ce qui veut dire tout et rien en même temps, mais ce qui permet de dire, oui, effectivement, on est un peu fautif. Bon, d'ailleurs, Duclerc, hein, qui avait porté la commission d'enquête, il a continué à creuser. Il a sorti un livre récemment qui s'appelle « La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République ». C'est aux éditions Talendier. Je ne l'ai pas lu, je vais dire très clairement, j'ai lu que des extraits, hein, et je remercie Mediapart d'ailleurs de les avoir publiés. Non, pour lui, il est reconnu comme, cet auteur, pardon, par Vincent Duclerc, il est reconnu comme l'un des principaux connaisseurs de la période et le plus documenté. Dans ce livre, il amplifie et il affine le constat qu'il avait fait dans le rapport, et son but, c'est d'aller chercher, le livre fait quand même 1000 pages, hein, okay. Des responsabilités, hein, lourdes et accablantes, de l'échelon politique français, et donc il dit essentiellement présidentiel. Dans le génocide des Tutsis. En clair, la France, donc, surtout le cercle présidentiel autour de Mitterrand, était au courant, a laissé faire, a peut-être aidé, et surtout espérer tirer profit du génocide. Voilà, en gros, c'est la conclusion de son livre. Dans une interview qu'il a faite à Mediapart, hein, l'auteur y confie avoir reconnu 3 phases précises, donc je vais les lire, hein, tout simplement. Vous pouvez retrouver l'article sur Mediapart, donc. Donc il dit, d'abord durant la phase de préparation de plus en plus implacable du génocide entre 90 et 93, 3 ans, hein, quand la France conduit une politique d'alliance inconditionnelle, sur les plans politiques et militaires en particulier, avec le régime raciste, violent et corrompu du général président Abiyarimana. Pardon. Voilà. Donc ça déjà, il explique que pendant 3 ans, la France elle est parfaitement au courant. Elle voit le génocide monter, elle est là, mais voilà. Il ajoute, ensuite, durant la phase paroxysmique des 100 jours du génocide, entre le 7 avril et le 4 juillet 1994, quand la France ne s'y oppose pas, et qu'elle y répond, du côté d'Edouard Balladur, par une décision de neutralité et le choix de l'humanitaire tout à fait inadapté, c'est un génocide, hein, donc voilà. Du côté de François Mitterrand, par un même soutien, certes plus discret, au pouvoir Hutu, et une... ennemisation, pardon, accrue du Front Patriotique Rwandais, le FPR, Tutsi, engagé au même moment dans le combat contre les génocidaires. Donc l'actuel président du Rwanda, il est issu, hein, des rangs du FPR. Donc en fait, c'est des gens qui ont pris les armes pour arrêter le génocide, tout simplement. Enfin, et il le dit, hein, donc c'est toujours l'auteur qui parle, pendant et après cette phase paroxysmique communément identifiée au génocide des Tutsis, quand la France officielle impose un déni sur ces faits de lourdes implications au sommet de l'État. Celui-ci exonère la France de toute responsabilité dans un génocide qui est occulté, inexistant, comme dans le communiqué de l'Élysée du 18 juin 1994 ou le discours de François Mitterrand à Biarritz le 8 novembre, le jour même où le Conseil de sécurité adopte la résolution de création du Tribunal pénal international pour le Rwanda, chargé justement de juger les crimes de génocide. Ce déni imposé va perdurer 27 ans et implose au printemps 2021 lorsqu'Emmanuel Macron prononce son discours de Kigali après avoir réceptionné le rapport que j'ai dirigé. Donc c'est l'auteur qui parle. Voilà, donc on voit quand même que la France, elle a quand même mis 27 ans à une chape de plomb sur son implication potentielle dans un génocide. Tout va bien. Alors, et maintenant ? Parce que depuis quelques jours, hein, se tiennent les commémorations du génocide au Rwanda. Aujourd'hui, c'était comme c'était le jour du début du génocide, c'était un peu le point d'orgue de ces cérémonies. Donc le pays, hein, il a dû se relever et créer de nouvelles sociétés, ce qui n'était pas simple, parce que voilà, vous savez, on sort d'un génocide, puis vos voisins ils sont toujours là.
C'est ça.
C'est un peu compliqué. Et c'était bien entendu très complexe. Et si sur place des commissions de la mémoire existent, si tout est tenté pour mettre en lumière le comment on a pu en arriver là, si la justice fait aussi son travail en jugeant les génocidaires, ben il y a un manque. C'est ce qui concerne la communauté internationale et la France en particulier. Bon. Voilà. Les procès existent, mais peu ont abouti. D'ailleurs, tous les procès qui ont été intentés contre l'État français ont été classés sans suite. Faut s'en rappeler. On sait à quel point, d'ailleurs, il est compliqué. Je dis jamais mis compliqué, mais j'aurais pu dire même impossible de faire condamner un État. Mais aussi, comment les politiques se protègent entre eux pour ne pas chuter. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, la position du président actuel, c'est de ne pas forcément faire chuter le président passé. Parce que je vous rappelle quand même que dans notre système d'élection monarchique, le président ne se trompe jamais. Donc, c'est, vous voyez, c'est pour pas entacher aussi la fonction la présidentielle. Fonction. Donc, il y a cette espèce de truc de protection. Voilà, donc c'est très malsain. Et donc il reste un point noir qui est à éclaircir, c'est la France a-t-elle eu un rôle clair, direct ou indirect, dans l'attentat du 6 avril 1994 qui a déclenché le génocide ? Ou pas ? Parce qu'en fait c'est ça la question qui est en suspens et qu'au Rwanda on aimerait avoir une réponse. Parce qu'on dit, il y a cet attentat, il y a l'attentat lance le génocide, parce qu'on accuse les Tutsis d'avoir fomenté l'attentat. Aujourd'hui, on sait que c'est pas les Tutsis. Hein. Faut être très clair, ça c'est la seule chose dont on est certain. C'est pas les Tutsis. Voilà.
Mais on sait pas qui
c'est. Par contre, on sait pas qui c'est. Donc, c'est là que ça devient compliqué, parce qu'il y a trois pistes qui existent. Un, ce serait des fanatiques Hutus, qui en fait ont fait l'attentat pour provoquer le génocide. Un, ce serait une sorte d'alliance entre plusieurs factions et plusieurs forces internationales et locales pour profiter de la guerre. Et un autre où certains disent peut-être qu'aussi, en fait, c'est l'élimination par la France d'un opposant politique. Voilà. Okay. Donc ces trois lignes existent, mais sauf que il y a pas de, on n'a rien pour enquêter vraiment aujourd'hui. On n'a pas rien. Tout est classifié.
Un opposant politique, mais c'est, attends, c'est peut-être moi qui me, mais c'est l'attentat, c'était contre un avion.
Oui, c'est ça.
Mais c'était pas le. C'était qui dans l'avion ?
Je sais plus.
Ah ok.
Je suis désolé.
Là, je me demande si c'était vraiment un ennemi.
Tu vas faire une recherche vite.
J'ai pas de téléphone.
Je vous le dis après. Mais oui, pardon, j'ai oublié les noms des personnes. Mais en fait, le souci, c'est l'opposant politique, c'est que les gens font un lien avec Ségar Senghor, avec Sankara, pardon,
okay.
En disant peut-être que c'est quelqu'un qui s'opposait un peu trop à la France et que la France l'aurait éliminé. Voilà.
Okay.
Mais ça reste que des hypothèses, encore une fois. Voilà. Donc c'est autour de ça qu'il y a quand même énormément d'archives qui sont classifiées, dont certaines pendant 50 ans et d'autres pendant 90 ans. Donc voilà. Et je suis désolé d'avoir perdu, parce que je le savais, mais j'ai perdu les noms des personnes qui étaient dans l'avion. Donc on le voit, si la France, via son président, semble aller vers une reconnaissance, peut-être d'avoir un jour
à demi-mot,
il y a encore quand même beaucoup de choses qui restent classifiées, détournées, cachées, et qui empêchent de faire toute la lumière sur cette horreur d'il y a 30 ans. Voilà. Et cela pose un souci à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du délai de prescription, parce que ce qui protégerait de potentiels responsables en France d'être jugés, c'est d'aller au-delà des 30 ans. On y est. C'est-à-dire, si on déclassifie qu'on identifie quelqu'un, comme ce serait pas une participation directe à un crime de indirect, la prescription est de 30 ans.
Ah, le côté indirect.
Comme un crime.
Okay, bah,
béton. Hein.
Okay.
Voilà. On sait aussi que plus on s'éloigne des faits et plus il est difficile de clairement les mettre en lumière, hein, c'est le principe. Bref, il est temps quand même d'ouvrir les archives aux chercheurs et chercheuses pour qu'enfin toute la lumière soit faite et que le Rwanda puisse avancer et se reconstruire pleinement. D'autant plus que la région est en tension en ce moment, très clairement, et que des massacres sur base ethnique reprennent dans plusieurs pays limitrophes. Ce qui, quand même, remet au Rwanda un peu au goût du jour ce qui s'est passé il y a 30 ans. Pas que, mais juste, c'est un pays en tension. Donc, ils ont besoin d'avoir la lumière pour comprendre, la lumière judiciaire, j'entends, pour comprendre ce qui se passe. Et comme le président Kagame, qui est l'actuel président, l'a dit, alors je suis pas fan de Kagame, je le dis très clairement, c'est un homme qui tient le pays d'une main de fer depuis bientôt 30 ans. C'est pas quelqu'un qui m'est très sympathique. Par contre, il a dit quelque chose qui est très juste. Il dit que la communauté internationale, à l'époque du génocide, a laissé tomber le Rwanda. Elle a détourné le dos.
Ouais.
Et on voit malheureusement qu'aujourd'hui, les génocides existent encore et que la communauté internationale, elle tourne aussi le dos. Donc c'est pas vraiment nouveau, mais c'est surtout qu'on n'a pas vraiment appris. ça surtout qui est embêtant. Donc c'est bien en pensant ce qu'a été quand même le génocide rwandais, pour ce qu'il est, une histoire de l'humanité aux résonances universelles, et pas juste un problème rwandais, que nous pourrons apprendre à éviter la répétition de ces horreurs. Comme à chaque fois, hein. Ça c'est bête à dire, mais voilà. Et je le redis, encore un effort, il faut ouvrir les archives et déclassifier les rapports.
Pardon.
Tes souhaits. On attend.
Excusez-moi. Et déclassifier les rapports. Sans quoi reconnaître qu'on a, en tant que pays, une part de responsabilité, peut-être, bah ça suffit pas vraiment. Voilà.
Ouais, c'est toujours là où on se rend compte que la patrie des droits de l'homme, ça s'arrête très vite aux frontières, voire même avant les frontières, quoi. Donc, après, Fab est en train de faire des recherches.
Ouais,
hein.
Mais
je pense qu'on peut peut-être se dire qu'on donnera.
C'était Juvenal Habyarimana, le président du Rwanda, qui était dans l'avion.
Oui, c'est ça.
Mais je cherchais aussi l'autre président, parce que c'était celui-là qui me manquait. C'est le président du Burundi, qui était aussi dans l'avion, et les deux sont éliminés.
Oui, mais c'était là où ça me semblait incohérent de dire que c'était un ennemi de la République française, alors qu'en fait, la République française le soutenait.
Oui, alors en fait, cette piste, elle apparaît sur une chose, c'est qu'il y a des personnes qui pensent, alors comme il n'y a pas moyen de savoir, c'est un petit peu une hypothèse, hein, que peut-être qu'à ce moment-là, en fait, il y a des dissensions entre le pouvoir français et le pouvoir rwandais, et burundais d'ailleurs, et que en fait, ces deux présidents ont peut-être l'idée de se tourner vers un autre pays que la France, peut-être la Russie, peut-être les USA, enfin on ne sait pas trop, et que du coup, il y avait peut-être la volonté aussi d'éliminer un petit peu celui qui aurait pu ne plus suivre nos directives. Bon, après, je dis nos en tant que pays, hein, pas moi, pas les miennes. Après, c'est qu'une hypothèse. Honnêtement, moi, j'ai lu les extraits du livre de l'auteur, dont j'ai perdu le nom, Vincent Duclerc, et lui, en fait, il planche plutôt sur la thèse en fait, que la France aurait participé indirectement par la formation de militaires ou autres, et qu'en fait, c'est plutôt peut-être une dissension en interne des Hutus nationalistes de l'époque et ethnicistes qui fait qu'en fait, il y en a qui ont voulu éliminer le président pour pouvoir mener à bien le génocide. Voilà, ça paraît plus plausible. Ouais. Malheureusement, en fait, le problème, c'est que c'est impossible aujourd'hui de trouver la réponse parce que, encore une fois, tout est classifié, c'est classifié en France. Donc c'est là qu'il faut que la France, elle joue son rôle. Et je rappelle quand même qu'elle a signé quand même au niveau international et de la CPI le fait qu'en cas de crime contre l'humanité, elle s'engageait à déclassifier tout document demandé. Alors un génocide, c'est un crime contre l'humanité, puisque pas du contraire. Donc si au lieu de demander des documents, elle est censée les déclassifier. Voilà.
Oui, mais ils vont sûrement rejouer sur le fait que bon, peut-être effectivement indirectement, mais donc si c'est pas directement,
c'est
on n'a pas
besoin. Ça.
Voilà.
C'est exactement ce que. Alors c'est ce que répond l'armée.
Les règles sont faites pour être contournées.
L'armée française dit nous n'étions pas sur place pour intervenir, nous étions sur place pour former, donc c'est pas nous. Nous n'avons pas fourni de matériel. Pourtant il y a quand même des choses qui démontrent que les Hutus génocidaires étaient. Il n'y a pas que des machettes, hein, parce qu'il y avait les machettes. Alors déjà les machettes, il y en a beaucoup qui étaient vendues par une entreprise française au passage. Et il y a aussi le fait que en fait il y avait dans l'armée des génocidaires. Il y avait quand même des outils extrêmement chers, c'est-à-dire des missiles sol-air qui coûtaient une fortune. En Rwanda, c'était pas un pays riche. Donc il y a bien une force extérieure, a priori la France, qui a fourni les moyens de. Et en fait, le problème qu'a aujourd'hui la France, c'est que si elle a fourni des moyens pour qu'un génocide se fasse, elle est co-belligérante et donc elle est co-responsable. Et c'est ce que veut éviter, clairement, le pouvoir français, c'est d'être reconnu comme co-responsable. Et pourtant, il y a fort à parier que la France a un rôle déterminant dans le génocide de Rwanda. Et donc, on en commémore plutôt les 30 ans aujourd'hui. Et espérons qu'on ne va pas attendre 130 ans pour savoir ce qui s'est passé et quel était le rôle de la France dans tout ça. Voilà.
Oui. On passe à la ZIC.
Ouais.
Enfin, dans un instant, la musique va arriver. Je pense qu'il faut monter le son.
Ton son à toi.
Ouais, mon son, le son, c'est parti.
Mateka sharira washibutse mama shamihi igiti kiza cyumushishe iteshema nishesha bene cyo kwanda wa wageze kure kure ai atagira hasi aho amateka na uyasiga ukwibutsa rwayo ni nkomezi Rwanda Rwanda wihorese ngundira ngo komeze Genocide yakorewe abatutsi nayo ntizagaruka ingengabitekerezo yayo irahandukane n'imizi yayo impore rwego Sabye kibahiro amaboko yawe ukuyaga hamye ntambwe dasubira inyuma mu rugendo rwo kwikotanira arubwigunge ratashukiyunge ubumwe n'amahoro ibishinyo ryo kwigira mazuru muri niruka zime agakiza kawe nukudapfa kundi mazu komeze kurugero mu cyerekezo wahisemo yewe Rwanda we mwihoreze ma nkundira ngo ukomeze tutsi iyo boniza karuka ingenga bitekerezo yayo irahandukane n'imizi yayo Nuka komereke tekana tengerana berwa bengerana shikama nuka tsikamirwe tuzatengamara tunga tunganirwa sugira usagambe wibuke wibuka Rwanda mwihorese undira ngo ukomeze Genocide yakorewe abatutsi iyo ntizagaruka ingengabitekerezo yayo irahandukane n'imizi yayo
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et on vient d'écouter Clarisse Camarzira ou Camasira, je ne sais pas si on fait le Z ou pas, avec Comera. Voilà. Alors c'est une chanson, ben, vous l'aurez compris, qui parle de la réconciliation après le génocide. Et de ne. En fait, dans les paroles, elle dit il faut regarder en face ce que nous avons fait, car si nous ne le regarderons pas, cela nous reviendra au visage et nous n'aurons pas compris ce que nous avons fait. Voilà, et c'est plutôt intéressant parce que c'est. Faut savoir quand même que Clarisse Carazira, je vais dire ça comme ça, est en fait journaliste au départ. Elle est aussi militante pour les droits des enfants. Et en fait, ben depuis le génocide, en fait, elle milite pour que la vérité soit faite totalement sur le génocide. Et donc, elle est aussi chanteuse. Elle se sert de la chanson pour passer ses messages. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, au Rwanda, quand elle a commencé sa carrière, elle a été très mal perçue parce que c'est une des premières qui a chanté sur le génocide. Okay. C'est l'une des premières qui, en fait, qui a dit, mais pourquoi en fait on n'en parle pas? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la musique au Rwanda, elle est soit religieuse, soit extrêmement love-love, hein, c'est-à-dire, voilà, des mecs qui disent, ouais, j'ai une belle voiture, tout se passe bien, machin, viens chérie, je t'emmène, machin. En fait, elle a dit, mais en fait, après ce qu'on a vécu, faut en parler.
Faut parler.
Donc, elle a été une des premières à en parler. Et voilà, je trouvais intéressant de la faire découvrir ce soir. Voilà.
Bah,
et,
très bien.
Et juste avant que je te passe la parole, je voulais m'excuser parce que j'ai une énorme crise d'allergie, j'ai une voix de merde et je perds mes mots. Donc voilà, pardon. Mais
c'est pas grave.
Et du coup, Jean-Yves, toi, tu voulais nous parler d'un film.
Ouais, c'est ça. Je parle rarement ciné, mais ce sera encore le cas ce soir. Hein. Et comme.
Du coup, c'est plus rare.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, sauf si on regarde sur le long terme. Alors, et comme pour Dali, c'est encore rapidement hein, qu'il va falloir y aller au Cinoche, parce que le film est peu distribué et il est sorti le 20 mars. Donc autant dire, je ne sais pas si mercredi prochain, il sera encore à l'affiche. C'est donc du film documentaire Une famille hein, de Christine Angot dont je veux vous causer ce soir. Alors commençons hein, par la réalisatrice qui est aussi le personnage principal de ce film documentaire. Donc Christine Angot, pardon, elle est autrice d'une vingtaine de romans. Hein, certains ont été adaptés au ciné, d'autres ont été adaptés au théâtre. Elle est aussi scénariste et elle a tenu... Et elle tient peut-être encore, je crois, des chroniques dans différents médias, papier, internet, télé, etc. etc. Un des thèmes hein, qui est assez présent dans ses œuvres, ben, c'est l'inceste. Alors peut-être comme moi, vous êtes un certain nombre à la connaître que par et pour ses sorties télévisuelles et autres. Et clairement, je suis pas fan du personnage. Hein, et que forcément, quand j'ai vu qu'elle sortait un film documentaire, je me suis pas mal questionné. J'y vais pas. Et puis au final, je lui dis bon bah faut y aller. Hein, c'est en y allant que je pourrais me faire mon avis à moi, rien qu'à moi. Et bah donc c'est ce que j'ai fait. Et donc,
Si t'en parles ce soir, c'est que ça t'a plu.
Bah ouais. En fait,
voilà,
hein.
Tout simplement.
Enfin, oui, oui.
Bah oui, non mais
on ne
parle à la causerie que ce qui nous plaît.
Oui, c'est vrai.
Alors des coups de gueule parfois.
Oui aussi. Oui.
Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Mais quand c'est des œuvres, on parle rarement d'un truc qu'on n'a pas envie.
Si ça arrive des fois qu'on crie après des
c'est vrai.
Ouais.
Ok. Enfin, je remonte sur les 10 dernières années.
En tout cas, ça t'a plu.
Oui. Donc, ce film documentaire. Alors, à l'occasion hein, de la sortie de son livre Le Voyage dans l'Est, durant l'été 2021, dans lequel elle revient sur les viols incestueux qu'elle a subis de son père, sa maison d'édition bah, lui propose d'organiser une petite tournée de dédicaces dans l'Est. Un petit voyage dans l'Est, voyez-le. Mmh. Voilà. Type Nancy, Strasbourg, Mulhouse. Et l'autrice, bah, elle se dit, tiens, ce serait bien qu'il y ait une caméra avec moi. Parce qu'il y avait un petit peu ce côté, justement, retour sur le passé. Hein. Elle en parle quelques jours plus tard à Caroline Champetier, qui est directrice de la photo. Et ben voilà pour la genèse du film.
Parce qu'il faut préciser qu'elle retourne à Strasbourg.
Oui.
Qui est la ville où tout s'est passé.
C'est un peu ça.
Ouais.
Alors, nous voilà donc hein, aux côtés de Christine Angot. Parce que son idée est clairement de retourner vers son passé, qui est aussi son présent, hein, et d'aller à la rencontre de certaines personnes qui faisaient partie de ce même passé, qui savaient, qui n'ont rien dit, qui n'ont pas réagi. Alors la première personne qu'elle ira voir, hein, justement à Strasbourg, en septembre 2021, enfin quand Christine Angot osera appuyer sur la sonnette, bah, c'est la femme de son père décédé. Alors important à savoir quand même dans le contexte, enfin le contexte, bah c'est une femme en fait qu'Angot, elle a tenté hein, à plusieurs reprises de contacter, des messages, etc. Et en fait la seule réponse qu'elle a eue, c'était le silence, là encore une fois. Elle sonne, on lui répond, la porte s'ouvre et se referme jusqu'à ce que son pied bloque la porte. Hein. Et s'ensuit une scène, une confrontation on peut même dire, d'une vingtaine de minutes durant lesquelles bah, Angot relèvera les propos, les déclarations de cette femme, questionnera ses sous-entendus, ses silences, ses attitudes présentes et passées. Et moi vraiment j'ai trouvé que c'était un face-à-face en fait avec le déni personnifié, enfin d'un coup le déni dont on a déjà pu parler quand on parle des violences sexuelles faites aux enfants, on parle souvent du déni et pas qu'aux enfants d'ailleurs tu me diras, mais et là vraiment, enfin c'est ça le déni en fait, il est là.
Ouais et c'est extrêmement tendu.
Ah ouais, oui, c'est pour ça.
Tension très forte.
C'est pour ça que j'ai mis confrontation, hein, ouais, parce ouais, qu'on peut pas se dire que c'était un sympathique dialogue autour de petits fours. Alors, s'ensuit hein, d'autres rencontres, d'autres échanges avec sa propre mère, mais aussi avec son ex, qui est aussi le père de sa fille. Et elle conversera également avec sa fille, aujourd'hui âgée de 30 ans, ainsi que son compagnon actuel, Christine Angot. Donc voilà. Alors pour ces deux derniers, hein, évidemment, leurs positions autour de ces faits ne sont évidemment pas les mêmes. D'ailleurs, l'attitude non plus, hein, leurs relations ne sont pas identiques aux autres. Et c'est logique. Alors chacune, hein, chacun sera interrogé, par Christine Angot, échangera avec elle. Chacun, chacune mettra des mots sur le passé, tentera de verbaliser leurs attitudes passées, présentes, les choses que le silence, que leur silence n'ont pas dit, que leur silence ne dit toujours pas en fait. Parce que tout le monde savait. Pouvait savoir, et si ce n'est pas à l'époque des faits, bah au moins après, au travers de ses écrits, en fait. Parce qu'elle a écrit, Christine Angot, hein, de ses romans des années 90-2000, s'appelle L'inceste. Hein, donc, je veux dire, si on ne veut pas voir, on ne voit pas. Tu voulais dire un truc ?
Je ne sais pas si tu veux en parler, mais il y a une scène hallucinante dans le film où elle est invitée sur un plateau télé. Hein.
Ah, j'en parle, mais, j'en, voilà, je, le cite, ouais, je le cite. Alors pourquoi hein, ce silence en fait pourquoi ce silence, même après que la victime ait parlé, que la victime ait écrit hein, pourquoi ce refus de croire la victime? Parce que c'est ça dont il s'agit. Et c'est vraiment un des points sur lequel elle va vraiment appuyer. Mais je reste cadré sur mon sujet parce que sinon je vais trop en dire. Mais c'est vraiment ça qu'elle va interroger. Alors des fois en bousculant les choses, mais il y a de ça quoi. C'est pourquoi tu ne me crois pas en fait. Alors qu'est-ce que cela dit des personnes présentes dans le film, hein, de l'ex-belle-mère, de sa propre mère, de son ex-compagnon. C'est vraiment aussi ça en fait. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Ton attitude et chacun, chacune, bah, ce ne sera pas les mêmes raisons, pas les mêmes réponses.
Ouais, par exemple, sans dévoiler. Non, mais vraiment, le but, ce n'est pas de dévoiler le film, mais il y a des dialogues, en fait, où même elle, Christine Angot, est déroutée, et ça se voit, par les réponses qu'elle reçoit. Mmh. C'est-à-dire que d'un coup, elle comprend mieux ce qui a pu se passer, pourquoi certains n'ont pas parlé, pourquoi certains ont laissé faire certaines choses. Mmh. Et en fait, moi j'ai trouvé, alors je le dis, mais je le redirai après, mais j'ai trouvé le Christine Angot extrêmement touchante, mais pas dans le sens larmoyant, plutôt dans le sens de l'humanité qui d'un seul coup se réinstalle chez elle. Mmh. C'est-à-dire que quand la colère commence un peu à disparaître et que l'humanité de la personne réapparaît, et c'est voilà, moi ça m'a vraiment bouleversé, sincèrement.
Alors si cela concerne évidemment en premier lieu les personnes directement liées à la vie, au viol incestueux que Christine Angot a subi, bah, la force de ce documentaire, c'est que cela parle, montre, matérialise le déni social, le déni sociétal en fait. Et vraiment, enfin, c'est absolument incroyable. Et quand je parlais avant du déni personnifié, et ben là on y est quoi. Et c'est pas chiqué. Je le redis, hein, on est dans un film documentaire.
Donc ah ouais,
rien n'est joué, rien n'est répété. On est là, quoi. C'est sur le vif en fait. Alors ce silence hein, majoritaire, évidemment, hein, dans les familles, mais aussi dans les cercles d'amis, hein, on n'en parle pas, hein, on dit rien, on sait, mais on dit rien. Dans les cercles sociaux qu'on peut fréquenter, ça je pensais dans nos milieux militants, les violences sexuelles faites aux enfants, vous entendez les mots jouelés, quoi, hein, même si ça commence à bouger, donc je serai un peu mauvaise langue, mais c'est un sujet dont on parle assez fréquemment depuis l'existence de la causerie. Et on a du mal, mais ça commence
quand même. Alors là, je rejoins justement Christine Angot dans deux de ses interviews. Comme elle dit, on commence à entendre un bruit de fond. Mm-hmm. Par contre, on ne comprend pas, on ne veut pas agir. On entend. Alors elle dit, c'est bien, on entend, on demande aux victimes de... Moi, je reprends ses mots et j'ai trouvé qu'elle était très juste. Je ne sais plus sur quelle émission elle a dit ça, mais elle dit, en fait, on entend, on demande aux victimes de parler. Elle dit, voilà, il faut parler, il faut dire. Mais elle dit, mais après... Parce qu'après, la société, elle en fait quoi? Et comme elle le rappelle, elle dit, et moi j'ai trouvé ça très juste dans cette interview, elle rappelle des chiffres, 97% des plaintes pour viol classées, moins de 6% des plaintes déposées, retenues, donc 3%, il n'y a que 6% de 3% qui arrivent au procès et qui arrivent à une condamnation de l'auteur. Et elle dit, mais en fait, la société est complètement minable. Et je trouve son mot très juste, elle est minable face à ça. Donc c'est bien d'entendre. Mais le problème, c'est agir. Mmh. Et je pense que là, il y a un vrai problème entre l'entendre et l'agir, en fait. Et je partage son point de vue.
Et donc, je reviens, pardon, je recommence, mais ce silence donc majoritaire dans les familles, dans les cercles d'amis, dans les cercles sociaux qu'on peut fréquenter, mais aussi dans notre pays, en fait, hein, finalement, regardez ce qui est devenu la Civise, ou dans le monde, parce que je veux dire, dans le monde, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont forcément, enfin, vraiment pris ce... Je ne les connais pas tous les pays, les centaines de pays qui existent, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus de la moitié qui est d'un coup s'est dit « Attention, on ne peut pas faire ça aux gosses, quoi. » Enfin bref, lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, ici plus précisément justement de violences sexuelles infligées aux enfants. Parce que si tout le monde, ou presque, invite, et je te rejoins, et je la rejoins, invite toujours les victimes à parler, bah c'est facile en fait. Ça n'engage en rien. En vérité, si on ne les écoute pas, si on n'agit pas, ça ne sert à rien. Et je vais peut-être un peu plus loin, c'est même lâche en fait. C'est juste lâche. C'est on se donne bonne conscience en disant mais si, allez-y, parlez. Et en fait, on se bouche les oreilles. Alors oui, on aura dit mais la victime, elle parle, on les laisse parler. Oui, mais en fait, si personne n'entend, ça sert à rien de parler, quoi. Si ce n'est à la rigueur, enfermer encore plus les victimes parce qu'en fait, elles se diront ça sert absolument à rien de parler.
Et pour reprendre les mots de Judith Godrèche, arrête d'entendre, commence à écouter.
Oui.
Voilà. Je pique à tout le monde ce soir. Voilà.
Et c'est ce que vient justement interroger Christine Angot hein, dans son film documentaire. Et toi, en fait, et toi là. Alors, elle parle évidemment à sa famille, mais...
Toi qui regardes.
C'est toi aussi, toi qui regardes, en fait. Pourquoi t'as rien dit, en fait? Et vous, là, pourquoi vous n'avez rien dit? Vous n'avez rien fait, en fait? Et justement, ça interroge toujours sur quelle place aux victimes qui parlent, qui disent, qui dénoncent, alors que tout le monde, ou presque, se bouche les oreilles et détourne le regard, en fait. Par ce déni, on refuse à la victime de l'être, c'est-à-dire victime, une reconnaissance de ce qu'elle a subi.
Et de ne pas être que ça, justement, du coup.
Évidemment.
Non, mais c'est ça qui est
paradoxal. Oui, mais il faut une reconnaissance pour pouvoir le dépasser.
Non, mais c'est ce que dit Christine Angot, c'est que si on s'en tient au fait qu'elle parle, on la maintient dans le rôle de victime.
Oui, bien sûr.
Et on ne reconnaît pas qu'en fait, on n'est pas que ça.
Et par ce déni, on autorise aussi le bourreau à être un bourreau, en fait. Parce que finalement, tout le monde s'en fout. Et en fait, on se complaît, en fait, dans l'inaction silencieuse. Parce qu'elle nous permet de ne pas prendre position. On laisse la famille nucléaire tranquille. Au pire, on dégage une ou deux personnes. Et le reste de la tribu est tranquille, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, ce qui se passe. On a eu maintes fois parlé ici. Et enfin, si vous ouvrez un peu les yeux et les oreilles, vous savez que c'est ce qui se passe majoritairement. Alors, ce docu, hein, c'est pas que ça. Enfin, c'est beaucoup de cela, mais c'est aussi des moments avec Juste Angot qui se questionne, qui s'agace même d'elle-même. Je trouvais ça aussi intéressant, en fait, de ne faire que parler, qu'écrire sur l'inceste. Et en même temps, ça parle de quelque chose aussi, si c'est aussi présent. Et c'est pas grave, en fait. Mais là aussi, elle a pas envie de s'enfermer dans quelque chose, quoi. Alors, on la voit aussi, écrit, sur fond de reggae music. Et le tout est aussi entrecoupé de vidéos d'archives personnelles, qui ont beaucoup d'années, où on voit, justement, sa fille, sa gamine grandir, moi, je l'ai mis un peu comme ça, comme un peu un phare de vie dans un monde de désolation, de destruction, de déni et de solitude, en fait. Parce que, enfin, même Angot, je crois qu'elle dit d'elle-même qu'en fait, elle faisait rien. Alors, c'est pas dans le film, mais en dehors, dans des interviews, elle disait, en fait, j'ai l'impression que j'avais rien faire, c'était un peu un monde vide, quoi. Et alors que, justement, cette petite vivante, là, c'est vraiment la vie qui est là, quoi. Et en fait, c'est vrai, ouais, c'est un pas de recul, un peu, qui raccroche à la vie, quoi. Et il y a aussi, je reviens sur ce que tu disais avant, il y a aussi une archive télévisuelle, hein. Un passage d'Angot dans une émission de Thierry Ardisson. Comment dire, c'est le mépris et le déni télévisuel et sociétal, là aussi incarné en même pas l'espace de 5 minutes, où on se fout de sa gueule, où on minimise absolument tout, où on la fait passer pour une hystérique, c'est assez gerbant. Et en même temps, je pense qu'à l'époque où ça passait, j'étais devant mon poste, quoi. Donc là aussi,
ça forgeait les gens qui regardaient.
C'est tout le truc, en fait. En fait, on est aussi dans cette société, quoi.
Juste, je rappellerai qu'en dehors de Thierry Ardisson, parce que, alors d'abord, moi je tiens à le dire, Thierry Ardisson a toujours été un homme de droite et réactionnaire.
Donc, c'est vraiment royaliste.
Donc à un moment donné, il ne faut pas être surpris que.
Attention, c'est pas que la droite qui dit rien.
Justement. C'est qu'à l'époque, il y a en plus des journaux qui étaient plutôt classés à gauche, Libération, et Télérama, mais c'est un peu un truc à part, qui ont fait des papiers mais dégueulasses sur Christine Angot, mais quand je dis bien dégueulasses, Télérama qui l'a traité de, ou de Libération qui l'a traité de pute, qui traitait son éditeur de Mac.
Ah oui, c'était ça, ouais.
C'est quand même surréaliste et on est allé très loin pour la faire taire. Mmh. Et voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, Christine Angot, j'en avais une image, comme tu dis, de la femme énervée. C'est-à-dire mmh. que un peu partout où elle passait.
Pas que énervée, voilà, mais un peu hautaine aussi. Voilà, enfin, un peu l'autrice, voilà.
Et en fait, d'un seul coup, j'ai compris pourquoi elle avait cette position-là en regardant ce film. Parce qu'en fait, quand on est en face d'un mur de déni, ben, on peut qu'avoir du dégoût avec ce qui est en face de nous. Et on fait pas forcément le tri. Et je lui en veux pas de pas faire le tri, en fait, finalement. Parce que je me dis, bah ouais, en fait, vu tout ce qu'elle a pris,
dans la gueule,
clairement, pendant des années, bah ouais, peut-être qu'à des moments, elle a poussé le curseur parce que, bah, c'était aussi un moyen pour elle de vider une colère et interne qui était trop forte et qui était légitime, en plus. Qui était vraiment légitime. Et c'est pour ça que moi, je trouve que, ce documentaire, il a aussi un aspect très intéressant, c'est celui de comprendre pourquoi, ben en fait, la victime, elle peut être aussi en colère. Et pourquoi la colère, c'est pas malsain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur la scène première où justement elle met le pied dans la porte pour rentrer, pour parler à son ex-belle-mère. Et c'est vrai que la scène est violente. Hein, Non, mais la scène en tant que telle, elle est violente. Oui. Par contre, ben moi, je suis désolé, mais je comprends pourquoi elle le fait. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est une question de contextualisation. C'est qu'en fait, quand on est face à 30, 40 ans de déni et de silence, ben ouais, des fois, on a envie de mettre des coups de pied dans les portes pour dire, bon, maintenant, on parle, quoi. Et donc, oui, ça peut paraître excessif, mais c'est tellement moins excessif qu'une société qui ferme sa gueule et qui enferme les gens et qui leur demande de ne pas parler et qui les laisse avec leur fardeau, que quelque part, je me dis, oui, finalement, ben, je regrette presque certaines choses que j'ai pu penser de Christine Angot en me disant, maintenant je comprends. Et je me dis, bah finalement, bah oui, elle a peut-être pris ses positions aussi pour tirer la sonnette d'alarme et dire, oh, en fait, faudrait vous réveiller, quoi. Et peut-être qu'effectivement, elle était maladroite, peut-être qu'effectivement, elle était parfois pas comme il fallait. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose? Et je pense sincèrement que oui. Mmh. Voilà.
Potentiellement, mais effectivement.
C'est mon point de vue.
Potentiellement, et en même temps, après, je voudrais juste revenir hein, sur cette notion de scène de violence. Il n'y a personne de blessé.
Il n'y a pas de coup.
Et
hein,
il n'y a absolument rien de cassé.
Oui, mais rentrer chez quelqu'un de force, ça peut paraître violent et je comprends que ça paraisse.
Effectivement, mais encore une fois, qu'est-ce qu'une porte bloquée sur des années de déni et de violence et... Enfin bon. Et dans ce film, il y a aussi des silences. Et ça aussi, c'est assez agréable. On observe un peu, on regarde. Alors, je peux évidemment que vous conseiller d'aller voir ce film documentaire, de le faire voir, pourquoi pas aussi, parce que je pense que ça peut peut-être rebooster aussi des personnes. Enfin, je sais pas, parce que d'un coup, on est face à une victime qui, alors après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, juste dit juste, maintenant, là, on arrête, en fait. Maintenant, on va se confronter. Et je trouve que c'est... Alors, évidemment, tout le monde ne pourra pas le faire et il ne s'agit pas que tout le monde doit le faire ou pas, j'en sais rien. Chacune et chacun est libre de faire ce qu'il ou ce qu'elle veut. Mais il y a vraiment ce truc de... Mais en fait, t'es pas obligé de courber les chines, quoi. Tu peux les confronter, en fait. Parce que finalement, il y a ça qui se passe un peu. C'est, d'un coup, on est dans la honte, elle change de camp, en fait. D'un coup, là, c'est toi, en fait. T'es face à la caméra, qu'est-ce que t'as à dire, en fait? Donc on peut ne pas aimer, hein, mais je trouve que ça vient bousculer les choses. Et le problème, c'est que depuis toutes ces années où les victimes parlent, ça n'a pas beaucoup bousculé les choses. Alors s'il faut bousculer un peu plus, eh ben faudra bousculer un peu plus. C'est comme ça. On ne change pas les choses en étant statique ou en fermant les yeux, quoi.
Mais c'est marrant parce que je vais reprendre un truc qu'a dit une journaliste de France Info en parlant justement du film, en appelant aux gens à aller voir. C'est une journaliste qui fait beaucoup de trucs sur la culture. Mmh. Et elle a dit un truc qui m'a fait rire parce que je l'ai trouvé très juste. Elle a dit, bah, en fait, c'est marrant parce que quand Michael Moore faisait ça avec des ultra-puissants et rentrait dans les bureaux pour aller filmer, tout le monde trouvait ça génial. Quand Élise Lucet fait ça avec des puissants aussi, rentre et impose la caméra en disant, maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire? Tout le monde trouve ça génial. Ouais. Par contre, quand ça concerne l'inceste, il faudrait pas le faire. Ouais. Et en fait, elle dit, mais pourquoi? Parce qu'après tout, c'est la même, c'est des pouvoirs et des gens qui ont un certain pouvoir. C'est un silence qui impose un pouvoir. Donc elle dit, mais pourquoi, en fait, là, on pourrait pas le faire? Et j'ai trouvé que...
Bah oui, et puis à la rigueur, on peut presque se dire, Élise Lucet est moins apte à bloquer la porte d'un patron qu'elle ne connaît pas que Christine Angot est capable de bloquer la porte de son ex-belle-mère, en fait.
Mais sauf que je trouvais que la réflexion était très juste. C'est-à-dire qu'on adore tout ça dès que ça touche pas l'inceste. Bah, c'est qu'on adore tout ça dès que c'est pas sur la pédocriminalité, dès que c'est pas... Voilà. Oh, là, y a, voilà, c'est le truc.
Dès que ça ne touche pas la famille.
La famille, ouais. Et là, du coup, et je trouvais que sa réflexion à cette journaliste, c'est très juste. Mmh. Parce que finalement, c'est pas la première personne qui met un pied dans la porte pour rentrer, quoi.
C'est ça. ouais. Mais sauf que là, elle vient mettre un pied dans la porte de l'intime. Alors, on en ressort un petit peu secoué, en tout cas, c'était mon cas. Pas savoir ce qu'on vient de voir, pas savoir ce qu'on pensait, parce qu'effectivement, on peut relever des scènes comme ça, qu'on peut se dire, waouh, elles sont dures ces scènes, et qu'en même temps, si on recontextualise, on reprend un petit pas de recul et on se dit, bon, ok, en fait, c'est quoi ça finalement face à toute la violence physique, les viols, etc. C'est rien en fait, une porte. Alors on est en score, hein, ouais, justement bien secoué, ouais, mais c'est aussi le rôle d'un tel documentaire, hein, sur un tel sujet, bah, avec la force du réel, hein, qui nous pète à la gueule en fait. Et je pense que bah, ça fait du bien, parce que le réel c'est ça en fait. C'est le déni que prennent dans la gueule justement des milliers de victimes. Et j'en... Alors évidemment, hein, c'était donc du film documentaire Une famille de Christine Angot, qui est encore au ciné, dont je vous parle ce soir, qui est encore dans quelques petites salles.
Il a pas eu une grosse diffusion.
Non, il a pas une grosse diffusion.
Ça aussi, ça en dit long. Hein.
C'est pas du cobu. pardon, c'est juste parce que c'est un film qui est distribué dans 650 salles. Voilà, et c'est une comédie, mais oui, voilà, c'est juste les sujets font que oui, c'est moins couvert. Et non, juste tout ça, faut le recontextualiser. On parle quand même aujourd'hui en France de 4 à 5 ou 6 millions de personnes adultes qui ont été victimes enfants, et on parle de chaque année 160 000 enfants qui subissent des violences sexuelles. Voilà. Donc c'est peut-être que la violence, ça se situe plutôt du côté de ces chiffres-là que d'autres choses. Quelque chose à rajouter ?
Ouais, moi j'ai juste un tout petit truc à dire, parce oui, effectivement, quand on sort, on est un peu secoué. Mmh. Par contre, je remercie, et je sais pas, elle nous écoute pas, donc elle s'en fout, mais je remercie Christine Angot, parce qu'elle a mis une scène à la fin de son film qui est juste, à mes yeux, une scène magnifique entre elle et sa fille. Mmh. Et une discussion, eh ben, où justement elle est elle-même déstabilisée dans la discussion, et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent et beau. Je sais pas si vous savez, mais c'était beau à mes yeux, parce qu'en fait, ben, c'est une façon aussi de dire voilà, on est aussi ça, c'est qu'on n'est pas que victime, on est aussi tout le reste. Et voilà, et moi j'ai trouvé ça particulièrement beau,
oui, en fait. Et puis voilà. C'est, je trouve que c'est juste une autre, enfin c'est une continuité de cette notion de discussion, de confronter, et que en fait on peut discuter un peu plus durement, et des fois on peut juste aussi discuter plus sereinement. Mmh. Mais l'important finalement, c'est peut-être de dire, mais que ça soit entendu, et que il y a des gens avec qui c'est vraiment entendu. Enfin bon, voilà, on va pas tout vous spoiler, parce que le docu fait 1h30, je crois. Donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas aussi à faire vos retours si vous allez le voir, si vous avez un avis identique ou pas du tout. Enfin, n'hésitez pas, quoi. Ça se passe sur le blog, on vous rappellera ça tout à l'heure. On passe à la ZIC, et qui est en lien avec le film documentaire.
Sous le moindre soleil.
et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de la Causerie. Et on vient donc de s'écouter Michel Polnareff, vous l'aurez certainement reconnu avec le titre Holidays. Et ouais, les holidays, les vacances peuvent être un enfer. C'est tout ce que je dirais par rapport au film docu. Et ben voilà. Alors, on va se quitter. Ouais. Fab, tu voulais annoncer deux, trois brèves?
Ouais, une première. Alors, excuse-moi, je vais devoir faire des allers-retours, donc voilà, mais c'est pas grave. Donc, une première, c'est le 11 avril, c'est à Grande Zéro. C'est la soirée de soutien au cartel des cantines. Alors, le cartel des cantines, si vous savez pas ce que c'est, bah, c'est des gens qui, c'est des cantines qui sont réunies dans un cartel. Ouais, tout comme le nom l'indique. Et en fait, l'idée, bah, c'est qu'elles débarquent quand il y a une grève, un mouvement social, une manif, une occupation. Et qu'en fait, eh ben, il faut, à un moment, il faut se nourrir à plein et pour pas cher. Eh ben, elles savent faire. À manger à plein pour et pour pas cher. Et donc les cartels des cantines, ben c'est totalement autogéré, c'est totalement en mode ben do it yourself, hein. Et donc du coup, ben il faut les soutenir parce qu'elles ont quand même besoin un petit peu de thunes, parce que mine de rien, ça se fait pas tout seul, hein, voilà. Et donc du coup, il y a le super DJ Bob Lachour et Nikanos qui vont foutre le feu aux platines toute la soirée du Grand Zéro. C'est donc le 11 avril et il y aura donc les meilleurs plats du cartel des cantines à découvrir. Bah ouais, parce que on va s'en mettre dans le ventre quand même. Donc l'argent qui sera récolté va permettre de continuer de proposer des repas gracieusement, comme le cartel le fait régulièrement, lors des repas de soutien, des comités de lutte, des piquets de grève, mais aussi à entretenir le matériel, parce que ça aussi, ça a un coût. Voilà. Donc venez avec de l'argent liquide, parce que je vous rappelle qu'au Grande Zéro, il n'y a pas la carte bleue.
C'est ça. Et Grande Zéro, c'est avenue de Bolène à Vaux-en-Velin.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Ah, bah, pardon, c'était pour que tu puisses chercher l'info suivante.
Non, non, mais il n'y a pas de souci. À l'atelier des canulars. Alors on va quand même les saluer parce que c'est des gens de Radio Canu, c'est Visage d'Amérique Latine. Okay. Même si, à titre personnel, je ne suis pas toujours d'accord avec Visage d'Amérique Latine, mais en tout cas, c'est une émission de Radio Canu. Et donc à l'atelier des canulars, ils font une soirée Peña Latina. Donc voilà, c'est une soirée avec des ensaladitas. Voilà, et les ensaladas. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne parle pas espagnol. Mais en gros, c'est un programme qui a 40 ans d'existence. Hein, ça date de 79, Visage d'Amérique Latine. C'est diffusé, le but, c'est de diffuser la culture, les musiques et les informations sur les luttes du peuple contre le néolibéralisme et ses ravages. Et c'est l'émission qui est donc diffusée tous les samedis, ou un samedi sur deux, de 10h à midi, sur Radio Canu. Et donc voilà, bah, vous pouvez aller les soutenir au 91 rue Montesquieu, dans le 7e, samedi 13.
Donc ils fêtent leur anniversaire.
Ouais, c'est un peu ça.
Ok.
Voilà, mais
joyeux
l'idée,
c'est aussi... un visage américain, ouais, latine, quand bah même. Ouais. Ok. Et il y avait d'autres brèves. On s'arrête là.
Non, c'est tout.
C'est tout pour le moment. Eh ben très bien.
Il y en a d'autres. Vous allez voir. Vous fouillez à droite à gauche. Mais dans celle qu'on avait envie de vous annoncer, il y a celle-là. Voilà.
Eh ben, très bien. Très bien. Eh ben, il va être l'heure de se quitter. Alors avant de se quitter, on va vous faire quand même quelques petits rappels. Alors si vous voulez nous contacter, si vous êtes artiste, une association, auteur, autrice, photographe, artiste, plasticien, plasticienne, circassienne, enfin tout ce que vous voulez, et ben vous envoyez un mail à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Ça c'est si vous avez envie de passer dans l'émission, qu'on cause ensemble pendant une heure. Si vous voulez réagir aux émissions, si vous voulez aussi les écouter, ça se passe sur le blog de l'émission, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous tapez la causerie Radio Canu dans votre petit moteur de recherche, vous devriez nous trouver et on vous invite vivement à rajouter vos commentaires sur cet espace-là si vous avez envie d'en faire, ce qui sont toujours le bienvenu, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous.
Alors Canu, c'est en autogestion, en ce moment il y a un petit bug sur les blogs qui fait que vous ne pouvez pas faire play pour nous écouter. Alors on est vraiment désolé, mais ça va être vite résolu. Ouais, c'était juste pour vous le signaler.
Ok, mais ils peuvent quand même télécharger le fichier.
Et bon, c'est pas trop. Okay. Bah alors tu y vas, tu regardes, puis si tu y arrives, tu nous fais un signe.
Mais après, ça tombe bien parce que la causerie, dans sa volonté de conquérir l'univers, est sur différentes plateformes de musique, etc. Donc, pareil, vous tapez la causerie Radio Canu et vous devriez trouver nos podcasts. Voilà. Alors, peut-être pas les 517 podcasts, mais en tout cas...
Normalement, il y a au moins les 30 derniers.
Ouais, c'est déjà pas mal. Hein.
Ça fait 30 heures d'émission.
Voilà, à peu près. Qu'on a tout dit.
Juste parce qu'il y a eu l'AG de Radio Canu, parce que figurez-vous qu'on est en autogestion, donc il y a des AG. Et à l'AG, bah, on s'est rappelé les uns les autres qu'on ne disait pas souvent dans les émissions quelque chose qui est évident. C'est qu'en fait, si tu as envie de faire de la radio, Radio Canu, c'est fait vrai. Pour toi. Et donc, eh ben, si tu veux savoir comment on fait de la radio, tu peux venir tous les mardis entre 19 et 20 heures rencontrer la prog. Et bah, c'est au 24 rue Sergent Blandin, hein, c'est ouvert. Tu viens, tu discutes et on va t'expliquer comment on fait une émission de radio. Et si tu es déjà quelqu'un qui voit à peu près ce que tu veux faire, c'est encore mieux si tu arrives avec une maquette d'une heure.
C'est ça.
C'est-à-dire, tu arrives avec ta maquette et dis, bah, tiens, voilà, moi j'aimerais bien faire ça sur Radio Canu. Et après, bah, on écoute. Et puis si ça va, bah, t'as un créneau.
C'est
et
ça.
Après, bah, tu payes tes 20 euros par mois pour faire de la radio. Parce que, bah oui, c'est une association, donc on paye une cotisation.
C'est ça.
Voilà, en gros, c'était juste pour rappeler que bah, Radio Canu, ça n'existe, ça peut aussi exister avec toi qui es de l'autre côté du poste et qui a envie de te dire.
Oui, parce qu'en fait, bien micro. Nous, en dehors de cette heure d'émission, on est de l'autre côté du poste.
Oui, hein, c'est ça. Nous, on écoute Radio Canu.
Il
n'y
a pas de professionnel à Radio Canu, en tout cas pas voilà. au nom de Radio Canu.
Donc, je le redis, la prog, c'est tous les mardis, 19-20h, au 24 rue Sergent Blandin, dans le premier. Et n'hésite pas à venir. Et même si tu as des questions sur la radio, si tu veux visiter la radio, les locaux, si dire tiens, mais c'est à quoi ça ressemble Radio Canu,
eh ouais.
Et ben c'est le moment, donc le mardi du 19 à 20h.
Et ben voilà. C'est très bien, peut-être l'occasion de choper un ou deux flyers ou autocollants, etc.
Exactement.
Etc. Et de continuer de faire connaître Radio Canu. Et ben je crois qu'on a tout dit là, vraiment pour de bon.
Bah ouais.
Clara, tu confirmes?
Je confirme.
On va se quitter.
On va se quitter en musique.
Avec
alors là,
un titre.
Normalement, ce qu'il faut faire, je sais, il est un peu tard, mais poussez un petit peu les meubles. Alors bon, Clara, elle fronce déjà les sourcils parce qu'elle, elle n'aime pas du tout. Donc vous pouvez aussi ne pas aimer, mais ça va bouger. Ok? Alors c'est.
Surtout les genoux.
Surtout les genoux. Donc c'est vrai, vous n'êtes pas obligé de pousser les meubles. Juste la table basse. Pardon. Donc on va se quitter avec le tout dernier titre d'Astéréotypie. Le titre c'est Calme-toi, bouge tes genoux. Et ben voilà, on vous souhaite de danser encore un petit peu sur le son d'Astéréotypie.
Ouais, sur du rock, du funk, du jazz.
Et du blues.
Et du blues.
Et nous on vous donne rendez-vous évidemment dimanche prochain à partir de 22h normalement sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous.
Des bisous, salut.
Ciao.
Calme-toi. Bouge ses genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz. Bouge ses genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz. Bouge ses genoux. Du pop, du rock, du zouk, du jazz. Bouge ses genoux. We'll be right back.
bouger genoux.